Les maîtres sonneurs, 11e veillée. Il y eut un moment où la bête parut perdre pied, mais Brulette était, en ce moment-là, entre nous deux et montrait beaucoup de courage. Quand nous fûmes sur l'autre rive, Huriel, fouillant toujours nos montures, nous fit prendre le galop. Et ce ne fut qu'en plaine, à la vue du ciel et à la portée des habitations, qu'il nous laissa souffler. À présent, dit-il en marchant entre moi et Brulette, je vous dois des reproches à tous deux. Je ne suis pas un enfant pour vous mettre dans un danger et vous y laisser. Pourquoi vous êtes-vous sauvé de l'endroit où je vous avais recommandé de m'attendre ?
C'est vous qui nous faites reproche, dit Brulette un peu animée. J'aurais cru que ce dût être le contraire.
Commencez donc, dit Huriel devenu pensif. Je parlerai après. De quoi me blâmez-vous ?
Je vous blâme, répondit-elle, de n'avoir pas eu la prévoyance de la mauvaise rencontre que nous devions faire. Je vous blâme surtout d'avoir su donner fiance à mon père et à moi pour me faire sortir de ma maison et de mon pays, où je suis aimée et respectée, et pour m'amener dans des bois sauvages où vous ne pouvez qu'à grand-peine me sauver des offenses de vos amis. Je ne sais pas quelles paroles grossières ils ont voulu me dire, mais j'ai bien entendu que vous étiez forcée de répondre de moi comme d'une honnête fille. C'est donc qu'on en doit douter en me trouvant en votre compagnie. Ah, le malheureux voyage! Voici la première fois de ma vie que je me vois insultée, et je ne croyais point que cela me dût arriver jamais. » Là-dessus, de dépit et de chagrin, le cœur lui enfla et elle se prit à pleurer de grosses larmes. Huriel ne répondit pas d'abord. Il avait une grande tristesse. Enfin, il prit courage et lui dit « Il est vrai, Brulette, que vous avez été méconnue. Vous en serez vengée, je vous en réponds. Mais comme je n'ai pu en donner punition sur l'heure, sans vous exposer davantage ce que je souffre au-dedans de moi, de colère rentrée, je ne peux pas vous le dire. Vous ne le comprendriez jamais. » Et les larmes qu'il retenait lui coupèrent la parole. « Je n'ai pas besoin d'être vengée, reprit Brulette, et je vous prie de n'y plus songer. Je tâcherai d'oublier de mon côté. Mais vous n'en maudirez pas moins le jour où vous vous êtes confiée à moi, » dit-il en serrant le poing, comme si, pour un peu, il eût voulu s'en assommer lui-même. « Allons, allons, » dis-je à mon tour. « Il ne se faut point quereller à présent que le mal et le danger sont passés. Je reconnais qu'il y a eu de ma faute. » Huriel emmenait les muletiers d'un côté et nous eût fait sauver de l'autre. C'est moi qui ai jeté Brulette dans la gueule du loup en croyant la sauver plus vite. Le danger n'y était d'aucune façon sans cela, dit Huriel. Certainement, parmi les muletiers, comme parmi tous les hommes qui vivent d'une manière sauvage, il y a des coquins. Il y en avait un dans cette bande-là, mais vous avez vu qu'il a été blâmé. Il est vrai aussi que beaucoup d'autres parmi nous sont mal appris et plaisantent mal à propos. Mais je ne sais point ce que vous entendez par notre communauté. Si nous sommes associés d'argent et de plaisir comme de pertes et de dangers, nous respectons les femmes les uns des autres, comme tous les autres chrétiens. Et vous avez bien vu que l'honnêteté était pareillement respectée pour elle-même. Puisqu'il vous a suffi de dire un mot de fierté pour ranger ces hommes-là au devoir. Et pourtant, dit Brulette encore fâchée, vous étiez bien pressée de nous faire partir, et il a fallu se sauver vitement au risque de se noyer dans la rivière. Vous voyez bien que vous n'êtes pas maître de ces mauvais esprits, et que vous aviez grand peur de les voir revenir à leur méchante idée.
Tout cela parce qu'on vous avait vu fuir avec Tiennet, reprit le muletier. On a cru que vous étiez là en faute. Sans votre peur et votre défiance, vous n'auriez même pas été vu de mes compagnons. Mais vous avez eu mauvaise idée de moi tous les deux, confessez-le.
Je n'avais pas mauvaise idée de vous, dit Brulette.
Et moi, si fait dans ce moment-là, répondis-je, je m'en confesse, ne voulant pas mentir.
Ça vaut toujours mieux, reprit Huriel, et j'espère que tu en reviendras sur mon compte.
C'est fait, lui dis-je. J'ai vu comme tu étais décidé,
et maître de ta colère en même temps. Et je reconnais qu'il vaut mieux savoir bien parler en commençant que de finir par là. Les coups viennent toujours assez tôt. Sans toi, je serais mort à cette heure. Et toi aussi, pour me soutenir, ce qui eût été un grand mal pour Brulette. Or donc, nous en voilà dehors grâce à toi. Et je pense que nous devrions en être meilleurs amis tous les trois.
À la bonne heure, répondit Huriel en me serrant la main. Voilà le bon côté du Berrichon. C'est son grand sens et son tranquille raisonnement.
Êtes-vous donc bourbonnaise, Brulette, que vous voilà si vive et si têtue?
Brulette consentit à mettre sa main dans la sienne, mais elle demeura soucieuse. Et comme je pensais qu'elle avait froid pour s'être beaucoup mouillée dans la rivière, nous la fîmes entrer dans une maison pour changer et se ravigoter d'un doigt de vin chaud. Le jour était venu, et les gens du pays paraissaient de bonne aide et de bon cœur. Quand nous reprîmes notre voyage, le soleil était déjà chaud, et le pays, un peu élevé entre deux rivières, réjouissait la vue par son étendue qui me rappelait nos plaines. Le dépit de Brulette était passé, car, en causant avec elle auprès du feu de ses bourbonnais, je lui avais remontré qu'une honnête fille n'est point salie par des propos d'ivrogne, et que nulle femme ne serait nette si ces propos-là comptaient pour quelque chose. Le muletier nous avait quittés un moment, et quand il revint pour mettre Brulette en selle, elle ne se put tenir de crier d'étonnement. Il s'était lavé, rasé et habillé proprement. Non pas si brave qu'elle l'avait vu une fois, mais aussi gentil de sa mine et assez bien couvert pour lui faire honneur. Cependant, elle n'en fit ni compliment ni badinerie, et seulement le regardait beaucoup, comme pour refaire connaissance avec lui quand il n'avait pas les yeux sur elle. Elle paraissait chagrinée de lui avoir été un peu rêche, mais ne savait plus comment revenir là-dessus, car il parlait d'autres sujets, nous donnant explication du pays bourbonnais, où, depuis le passage de la rivière, nous étions entrés, me faisant connaître les cultures et usances et raisonnant en homme qui n'est sot sur aucune chose. Au bout de 2 heures, sans autre fatigue ni encombre, toujours montant, nous étions arrivés à Mesples, qui est paroisse voisine de la forêt où nous devions trouver Joseph. Nous ne fîmes que traverser l'endroit où Huriel fut beaucoup accosté de gens qui paraissaient lui porter bonne estime et de jeunesse qui le suivaient de l'œil et s'étonnaient de la compagnie qu'il menait avec lui. Nous n'étions cependant pas encore arrivés. C'était au fin fond du bois, ou pour mieux dire, au plus haut que nous devions gagner. Car le bois de l'Alleu, qui se joint avec celui de Chambéra, remplit un plateau d'où descendent les sources de 5 ou 6 petites rivières ou ruisseaux, et formait alors un pays sauvage, entouré de landes désertes, ou peu s'en faut, d'où la vue s'étendait très au loin de tous les côtés. Et de tous ces côtés-là, c'était autre forêt ou bruyère sans fin. Nous n'étions cependant encore que dans le bas bourbonnais, qui touche au plus haut du Berry, et il me fut dit par Huriel que le pays allait toujours grimpant jusqu'à l'Auvergne. Les bois étaient beaux, tout en futaie de chênes blancs, qui sont la plus belle espèce. Les ruisseaux, dont ces bois étaient coupés et ravinés en 1000 endroits, formaient des places plus humides, où poussaient des vergnes, des saules et des trembles, tous arbres grands et forts, dont n'approchent point ceux de notre pays. J'y vis aussi, pour la première fois, un arbre blanc de sa tige et superbe de son feuillage, qui ne pousse point chez nous, et qui s'appelle le hêtre. Je crois bien que c'est le roi des arbres après le chêne, et s'il est moins beau, on peut dire quasiment qu'il est plus joli. Ils étaient encore assez rares dans cette forêt, et Huriel me dit qu'ils n'étaient foisonnants que dans le mi-temps du pays bourbonnais. Je regardais toutes choses avec grand étonnement, m'attendant toujours à voir plus de rareté qu'il n'y en avait, et ne revenant pas de trouver que les arbres n'avaient pas la tête en bas et les racines en l'air, tant on s'inquiète de ce qui est éloigné et de ce qu'on n'a jamais vu.
Quant à Brulette, soit qu'elle eût du goût naturel pour les endroits sauvages, soit qu'elle voulût consoler Huriel des reproches qu'il avait affligés, elle admirait tout plus que de raison, et faisait honneur et révérence aux moindres fleurettes du sentier. Nous marchions depuis un bon moment de temps, sans rencontrer âme qui vive, quand Huriel nous dit, en nous montrant une éclaircie et un grand abatis, « Nous voilà aux coupes, et dans 2 minutes, vous verrez notre ville et le château de mon père. » Il disait cela en riant, et pourtant nous cherchions encore des yeux quelque chose comme un bourg et des maisons, quand il ajouta, en nous montrant des huttes de terre et de feuillage qui ressemblaient plus à des terriers d'animaux qu'à des demeures d'humains, « Voilà nos palais d'été, nos maisons de plaisance. Restez ici, je cours en avant pour avertir Joseph. » Il partit au galop, regarda à l'entrée de toutes ses cabioles et revint nous dire, un peu inquiet, mais le cachant de son mieux, « Il n'y a personne. C'est bon signe. Joseph va bien. Il aura accompagné mon père au travail. Attendez-moi encore. Reposez-vous dans notre cabane, qui est la première ici devant vous. J'irai voir où est notre malade. » « Non, non, » dit Brulette, « nous irons avec vous. » « Avez-vous donc peur ici ? Vous auriez tort. Vous êtes sur le domaine des bûcheux, et ce ne sont pas, comme les muletiers, des suppôts du diable. Ce sont de braves gens de campagne, comme ceux de chez vous, et là où règne mon père, vous n'avez rien à craindre. » « Je n'ai pas peur de votre monde, » reprit Brulette, « mais bien de ce que je ne vois pas José. Qui sait s'il n'est point mort et enseveli ? Depuis un moment, l'idée m'en est venue, et j'en ai le sang figé. » Huriel devint pâle, comme si la même idée le gagnait, mais il n'y voulut pas donner attention. « Le bon Dieu ne l'aurait pas permis, » dit-il. « Descendez, laissez là vos montures qui ne passeraient pas dans le fourré, et venez avec moi. » Il prit une petite sente qui menait à une autre coupe, mais là encore, nous ne vîmes ni Joseph, ni autre personne. « Vous pensez que ces bois sont déserts ?» nous dit Huriel. « Et cependant je vois, aux coupes fraîches, que les bûcheux y ont travaillé tout le matin. Mais c'est l'heure où ils font un petit somme, et ils pourraient bien être couchés dans les bruyères sans que nous les vissions, à moins de marcher dessus. « Mais écoutez, voilà qui me réjouit de cœur. C'est mon père qui cornemuse, je reconnais sa manière. Et c'est signe que José ne va pas plus mal, car l'air n'est point triste. Et je sais que mon père le serait si un malheur était arrivé. » Nous le suivîmes, et c'était véritablement une si belle musique que Brulette, encore pressée d'arriver, ne se pouvait tenir de s'arrêter par moments, comme charmée. Et sans être aussi portée qu'elle à comprendre une pareille chose, je me sentais secouée aussi dans mes 5 sens de nature. À mesure que j'avançais, je croyais voir autrement, entendre autrement, respirer et marcher d'une manière qui m'était nouvelle. Les arbres me paraissaient plus beaux, aussi la terre et le ciel. Et j'avais plein le cœur un contentement dont je n'aurais su dire la cause. Et voilà qu'enfin, sur des roches, au long desquelles marmonnait un gentil ruisselet tout rempli de fleurs, nous vîmes José debout, d'un air triste, auprès d'un homme assis qui cornemusait pour le plaisir de ce pauvre malade. Le chien Parpluche était à côté d'eux et paraissait écouter aussi, comme eût fait une personne douée de connaissances. Comme on ne faisait pas encore attention à nous, Brulette nous retint d'avancer. Voulant bien regarder Joseph et prendre connaissance de son état par son air avant de lui parler. Joseph était blanc comme un linge et sec comme un bois mort, à quoi nous connûmes bien que le muletier ne nous avait point menti. Mais ce qui nous reconsola un peu fut de voir qu'il avait grandi quasiment de toute la tête, ce que les gens qui le voyaient tous les jours pouvaient bien n'avoir pas remarqué, et nous expliquait à nous autres sa maladie par la fatigue de son croix. Et malgré qu'il avait les joues creusées et la bouche pâle, il était devenu tout à fait joli homme, ayant, malgré sa langueur, les yeux clairs et même vifs comme de l'eau courante, des cheveux fins qui se séparaient sur sa figure blême en manière de bon Jésus, et toute une semblance d'ange du ciel qui le différenciait d'un paysan autant qu'une fleur d'amandier se différencie d'une amande dans sa carcotte. Mêmement, ses mains étaient blanches comme celles d'une femme, pour ce que, depuis un temps, il n'avait point travaillé, et l'habillement bourbonnais, qu'il avait pris coutume de porter, le faisait ressortir plus dégagé et mieux construit qu'autrefois ses blottes de toile de chanvre et ses gros sabots. Mais, quand nous eûmes donné notre première attention à notre ami Joseph, force nous fut de regarder aussi le père d'Uriel, un homme comme j'en ai peu vu de pareil, croyez-moi, et qui, sans avoir étudié, avait une grande connaissance et un esprit qui n'eût point gâté un plus riche et mieux connu. Il était grand et fort homme, de belle prestance comme Uriel, mais plus gros et large d'épaules. Sa tête était pesante et emmanchée de cour comme celle d'un taureau. Sa figure n'était point jolie du tout, pour ce qu'il avait le nez plat, la bouche épaisse et les yeux ronds. Mais ça n'en faisait pas moins une mine qu'on aimait à regarder, et qui, tant plus on la regardait, tant plus vous saisissait par un air de force, de commandement et de bonté. Ses gros yeux noirs brillaient comme deux éclairs dans sa tête, et sa grande bouche, quand elle riait, vous aurait fait revenir de la plus mauvaise mort. Il avait, en ce moment-là, la tête couverte d'un mouchoir bleu, noué par derrière, et ne portait guère autre vêtement que son haut de chausse et sa chemise, avec un grand tablier de cuir, dont ses mains, usées au travail, ne différaient point pour la couleur et la dureté. Mêmement, ses doigts écrasés ou entaillés par mains accidents où il ne s'était point épargné, semblaient des racines de buis, toutes contournées de gros nœuds, et l'on eût dit qu'il ne pouvait plus faire service que de marteau à casser la pierre. Et nonobstant, il les menait aussi subtilement sur le hautbois de sa musette que si ce fussent léger fuseau ou menu pâte d'oisillon. À côté de lui, étaient couchées les carcasses de grands chênes fraîchement abattus et dépecés, et mis lesquels on voyait les instruments de son travail, sa cognée brillante comme un rasoir, son citon pliant comme un jonc et sa bouteille de terre dont le vin entretenait ses forces. À un moment, José, qui l'écoutait sans souffler, tant il y trouvait d'aise et de soulagement, vit son chien Parpluche venir vers nous pour nous caresser. Il leva les yeux et nous vit, arrêtés à 10 pas de lui. De blême, il devint rouge comme le feu, mais ne bougea, car il crut d'abord que c'était la vision des personnes auxquelles la musique le faisait songer. Brulette courut vers lui, les bras étendus. Alors, il fit entendre un cri et tomba, comme suffoqué, sur ses deux genoux, ce qui me fit grand-peur, car je n'avais point idée d'un amour si étrange, et je pensais que le saisissement lui donnait le coup de la mort. Mais il en revint au plus vite, et se mit à remercier Brulette, et moi, ainsi qu'Uriel, dans des mots si amitieux et qui lui venaient si aisément, qu'on pouvait bien dire que ce n'était plus le même José, qui, si longtemps, avait répondu « je ne sais pas » à toute chose qu'on lui put dire. Le père Bastien, ou plutôt le grand bûcheux, car on l'appelait toujours comme ça dans son pays, posa sa musette et, du temps que Brulette et José se parlaient, secoua ma main comme s'il m'eût connu de naissance. « Voilà ton ami Tiennet, dit-il à son garçon. « Eh bien, sa figure me revient, et sa corporance aussi, car je gage que j'aurai peine à le tourer, et j'ai toujours vu que les hommes les plus forts étaient les plus doux. Je l'ai vu dans toi, mon Uriel, et dans moi-même, qui me suis toujours senti en bonne disposition d'aimer mon prochain plutôt que de l'écraser. Or donc, Tiennet, sois le bienvenu dans nos forêts sauvages. Tu n'y trouveras point du beau pain de pur froment et des salades de toutes sortes comme dans ton jardin, mais nous tâcherons de te régaler de bonnes causeries et de franche amitié. Je vois que tu as accompagné la belle fille de Nohant, qui est comme la sœur et la petite mère à notre José. C'est bien fait à vous, car le courage lui manquait pour guérir. Mais à présent, je n'en serai plus en peine, et ce médecin-là me paraît bon. » Il disait ainsi, en regardant José, qui s'était assis sur ses talons au pied de Brulette, et lui tenait la main en l'examinant de tous ses yeux, et la questionnant sur sa mère, sur le père Brûlé, sur les voisins, les voisines et toute la paroissée. Brulette, voyant que le grand bûcheux parlait d'elle, vint à lui et lui fit excuse de ne l'avoir point saluée en premier. Mais lui, sans plus de façon, la prit par le corps et l'éleva sur la roche comme pour l'avoir d'entier, ainsi qu'une bonne sainte ou toute autre chose précieuse. Et, la reposant à terre, il l'embrassa au front, disant à José, qui rougissait autant que Brulette, « Tu me disais bien, c'est joli de tout en tout, et voilà, je pense, une pièce sans tache ni défaut. L'âme et le corps sont de la meilleure qualité qu'il y ait, ça se voit à travers les yeux. Et dis-moi donc, Uriel, je ne peux pas savoir, moi qui suis aveuglé sur mes enfants, si elle est plus jolie que ta sœur, mais il me semble qu'elle ne l'est pas moins, et que si elles étaient à moi toutes les deux, je ne saurais de laquelle me dire le plus fier. Voyons, Brulette, n'ayez point honte d'être belle, et n'en soyez pas vaine non plus. L'ouvrier qui façonne si bien les créatures de ce monde ne vous a pas consulté, et vous n'êtes pour rien dans son ouvrage. Mais ce qu'il fait pour nous, on peut le gâter par folie ou sottise. Et je vois, à votre air, que loin de là, vous respectez ses dons en vous-même. Oui, oui, vous êtes une belle jeunesse, saine de cœur et droite d'esprit. Je vous connais assez, puisque vous voilà ici, venant réconforter ce pauvre enfant qui vous appelait comme la terre appelle la pluie. Bien d'autres n'eussent pas fait comme vous, et pour cela je vous estime. Aussi, je vous demande vos amitiés pour moi, qui vous serai ici un père, et pour mes deux enfants, qui vous seront frères et sœurs. » Brulette, qui avait eu gros sur le cœur le mauvais emportement envers elle des muletiers dans le bois de la roche, fut si sensible à l'estime et au compliment du grand bûcheux qu'elle en eut des larmes prêtes à couler, et que, se jetant à son cou, elle ne sut lui répondre qu'en le baisant comme si ce fût son propre père. « Voilà la meilleure réponse, dit-il, et j'en suis content. Or ça, mes enfants, l'heure du repos est passée pour moi, et je dois reprendre ma tâche. Si vous avez faim, voilà mon bissac et mes petites provisions. Uriel s'en ira tout à l'heure avertir sa sœur pour qu'elle vienne vous faire compagnie. Et vous autres, mes berrichons, vous deviserez avec Joseph, car vous en avez long à lui dire, j'imagine. Mais vous ne vous écarterez point, sans lui, de mon han et du bruit de ma cognée, car vous ne connaissez point la forêt et pourriez vous y égarer. » Là-dessus, il se mit à débiter ses arbres, après avoir pendu sa musette à un de ceux qui étaient encore debout. Uriel mangea un morceau avec nous et questionné sur sa sœur par Brulette, « Ma sœur, Thérence, nous dit-il, est une bonne et gentille fille d'environ votre âge. Je ne dirai pas, comme mon père, qu'elle peut soutenir la comparaison avec vous. Mais telle qu'elle est, elle se laisse regarder, et son humeur n'est pas des plus sottes. Elle a coutume de suivre mon père dans toutes ses stations, afin qu'il n'y manque de rien, car la vie d'un bûcheux, comme celle d'un muletier, est bien dure et bien triste quand il n'a pas de compagnie pour son cœur. » « Et où donc est-elle en ce moment, si ? » demanda Brulette. « Ne pourrions-nous l'aller trouver ?»« Elle est je ne sais pas où, » répondit Uriel, « et je m'étonne qu'elle ne nous ait point entendu venir, car elle n'a pas coutume de s'éloigner des loges. L'as-tu vue aujourd'hui, Joseph ?»« Oui, » dit-il, « mais pas depuis le matin. Elle était un peu abattue et se plaignait du mal de tête. » « Elle n'est pourtant pas sujette à se plaindre de quelque chose, » reprit Uriel. « Or donc, excusez-moi, Brulette, je m'en vais vous la chercher au plus vite. » 12e veillée. Quand Uriel nous eut quittés, nous fîmes promenade et conversation avec Joseph. Mais, pensant qu'il était content de m'avoir vu, et le serait encore plus de se trouver seul avec Brulette, je l'ai laissé ensemble, sans faire semblant de rien, et m'en allai rejoindre le père Bastien pour m'occuper à le voir travailler. C'était une des choses plus réjouissantes que vous ne sauriez croire, car de ma vie, je n'ai vu travail de main d'homme dépêché d'une si rude et si gaillarde façon. Je pense bien qu'il eût pu faire, sans se gêner, l'œuvre de 4 des plus forts chrétiens en sa journée, et cela, toujours riant et causant quand il avait compagnie, ou chantant et sifflant quand il était seul. Il était d'un sang si chaud et si grouillant qu'il me donnait envie de l'aider, et que je regrettais de n'avoir rien à faire pour mon compte. Il m'apprit que, généralement, les fendeux et bûcheux étaient habitants voisins des bois où ils travaillaient, et que, quand leur demeure en était tout proche, ils y venaient à la journée. D'autres, demeurant un peu plus loin, y venaient à la semaine, partant de chez eux le lundi avant le jour, pour y retourner à la nuit le samedi en suivant. Quant à ceux qui descendaient comme lui du haut pays, ils s'engageaient pour 3 mois, et leur cabane était plus grande, mieux construite et mieux approvisionnée que celle des bûcheux à la semaine. Il en était à peu près de même des charbonniers, et par là, on entend non pas ceux qui achètent du charbon pour en revendre, mais ceux qui le fabriquent sur place, au compte des propriétaires des bois et forêts. Il y en avait aussi qui achetaient le droit de l'exploiter, de même qu'il y avait des muletiers qui en faisaient commerce pour leur compte. Mais généralement, ce dernier métier consistait à faire seulement des transports. Dans les temps d'aujourd'hui, l'industrie des muletiers est en baisse et va à se perdre. Les forêts sont mieux percées et il n'y a plus tant de ces endroits abominables pour les chevaux et les voitures, où le service des mulets est le seul possible. Le nombre des forges et usines qui consomment encore du charbon de bois est bien mandré, et on ne voit que peu de ces ouvriers-là dans nos pays. Il y en a cependant encore qui vont dans les grands bois de Cheurs en Berry, ainsi que des fendeuses et bûcheux du Bourbonnais. Mais, au temps dont je vous parle, et où les bois couvraient encore au moins la moitié de nos provinces, tous ces états étaient grandement recherchés et avantageux. Si bien qu'en une forêt, au temps de son exploitation, on trouvait toute une population de ces différents ordres, tant de l'endroit même que des endroits éloignés, qui avaient chacun leurs coutumes, leurs confréries, et autant que possible, vivaient en bon accord les uns vis-à-vis des autres. Le père Bastien me raconta, et je le vis plus tard moi-même, que tous les hommes adonnés au travail des bois s'habituaient si bien à cette vie changeante et difficile qu'ils avaient comme le mal du pays quand il leur fallait vivre en plaine. Et tant qu'à lui, il aimait les bois comme s'il eût été loup ou renard, encore qu'il fût le meilleur chrétien et le plus divertissant compagnon qui se pût trouver. Cependant, il ne se moqua point, comme avait fait Huriel, de ma préférence pour mon pays. « Tous les pays sont beaux, disait-il, du moment qu'ils sont nôtres, et il est bon que chacun fasse estime particulière de celui qui le nourrit. C'est une grâce du bon Dieu, sans laquelle les endroits tristes et pauvres seraient laissés à l'abandon. J'ai ouï dire à des gens qui ont voyagé au loin qu'il y avait des terres sous le ciel que la neige ou la glace couvraient quasiment toute l'année, et d'autres où le feu sortait des montagnes et ravageait tout. Et cependant, toujours on bâtissait de belles maisons sur ces montagnes endiablées, toujours on creusait des trous pour vivre sous ces glaces. On y aime, on s'y marie, on y danse, on y chante, on y dort, on y élève des enfants tout comme chez nous. Ne méprisons donc la famille et le logement de personne. La taupe aime sa noire caverne, comme l'oiseau aime son nid dans la feuillée, et la fourmi vous rirait au nez si vous vouliez lui faire entendre qu'il y a des rois mieux logés qu'elle en leur palais. » La journée s'avança sans que je visse revenir Huriel avec sa sœur Thérence. Le père Bastien s'en étonnait un peu, mais ne s'en inquiétait point. Plusieurs fois, je me rapprochai de Brulette et de José, qui ne se tenaient pas loin de là. Mais, les voyant causer toujours et ne point donner attention à mon approche, je m'en allai seul de mon côté, ne sachant trop comment avaler le temps. J'étais, avant toute chose, moi aussi, le vrai ami de cette chère fille. 10 fois par jour, je m'en sentais amoureux. 10 fois par jour, je m'en sentais guéri. Et le plus souvent, je n'y prétendais plus assez pour m'en chagriner. Je n'avais jamais été bien jaloux de Joseph. Avant le moment où le muletier nous avait appris le grand feu qui consumait ce jeune homme. Et depuis ce moment-là, chose étrange, je ne l'étais plus du tout. Plus Brulette marquait de compassion pour lui, plus il me semblait reconnaître qu'elle s'y portait par devoir d'amitié seulement. Et cela me chagrinait au lieu de me réjouir. N'ayant point d'espérance pour moi, je souhaitais au moins conserver le voisinage et la compagnie d'une personne qui mettait tout en aise autour d'elle. Et je me disais aussi que si quelqu'un méritait sa préférence, c'était ce jeune gars qu'il avait toujours aimé et qui sans doute ne saurait jamais se faire aimer d'aucune autre. Je m'étonnais même que ce ne fût pas là l'idée cachée de Brulette, surtout voyant comme José, au milieu de sa maladie, était devenu gentil, savant et parleur agréable. Certainement, il devait son changement à la compagnie du grand bûcheux et de son fils, mais il y avait mis un grand vouloir, et elle devait lui en savoir gré. Pourtant, Brulette ne paraissait pas voir ce changement, et il me semblait qu'en voyage, elle avait bien plus pris garde au muletier Huriel qu'elle n'avait encore fait à personne autre. Voilà l'idée qui m'angoissait à chaque moment davantage. Car si sa fantaisie se tournait sur cet étranger, 2 grosses peines m'attendaient. La première, c'est que notre pauvre José en mourrait de chagrin. La seconde, que notre belle Brulette quitterait le pays de chez nous, et que je n'aurais plus ni sa vue ni sa causerie. J'en étais là de mon raisonnement quand je vis revenir Huriel, menant avec lui une fille si belle que Brulette n'en approchait point. Elle était grande, mince, large d'épaules et dégagée, comme son frère, dans tous ses mouvements. Naturellement brune, mais vivant toujours à l'ombre des bois, elle était plutôt pâle que blanche. Mais cette sorte de blancheur-là charmait les yeux, en même temps qu'elle les étonnait, et tous les traits de sa figure étaient sans défaut. Je fus bien un peu choquée de son petit chapeau de paille, retroussé en arrière comme la queue d'un bateau. Mais il en sortait un chignon de cheveux si merveilleux de noirceur et quantité qu'on s'accoutumait bientôt à le regarder. Ce que je remarquais dès le premier moment, c'est qu'elle n'était pas souriante et gracieuse comme Brulette. Elle ne cherchait point à se rendre plus jolie qu'elle ne l'était, et son apparence était d'un caractère plus décidé, plus chaud dans la volonté et plus froid dans les manières. Comme je me trouvais assis contre une corde de bois coupée, il ne me voyait point. Et, au moment qu'ils s'arrêtèrent près de moi à la fourche d'une sente, ils se parlèrent comme gens qui sont seuls. « Je n'irai point, » disait la belle Thérence d'une voix affermie. « Je vais aux cabanes tout préparer pour leur souper et leur coucher. C'est tout ce que je veux faire pour le moment. »«
Et tu ne leur parleras point? Tu vas leur montrer ta mauvaise humeur ?»
disait Huriel qui paraissait surpris. « Je n'ai point de mauvaise humeur, » répondit la jeune fille. « Et d'ailleurs, si j'en ai, je ne suis pas forcée de la montrer. »«
Tu la montres pourtant, puisque tu ne veux point aller prévenir cette jeunesse qui doit commencer à s'ennuyer de la compagnie des hommes. Et qui serait-elle, je le parie, de se trouver avec une autre jeune fille ?»«
Elle ne doit point s'ennuyer, » reprit Thérence, « à moins qu'elle n'ait un mauvais cœur. Mais je ne suis point chargée de l'amuser. Je la servirai et l'assisterai. Voilà tout ce qui est de mon devoir. »
« Mais elle t'attend. Qu'est-ce que je vais lui dire ?
Dis-lui ce que tu voudras. Je n'ai pas à lui rendre compte de moi. » Là-dessus, la fille du bûcher s'enfonça dans la sente et Huriel resta un moment songeur,
comme un homme qui cherche à deviner quelque chose. Il passa son chemin, mais moi, je restais là où j'étais, planté comme une pierre. Il s'était fait en moi comme un rêve surprenant à la première vue de Terence. Je m'étais dit, voilà une figure qui m'est connue. À qui est-ce qu'elle ressemble donc? Et puis, à mesure que je l'avais regardée, tandis qu'elle parlait, j'avais trouvé qu'elle me rappelait la petite fille de la charrette embourbée qui m'avait fait rêvasser tout un soir et qui pouvait bien être cause que Brulette, me trouvant trop simple dans mon goût, avait détourné de moi son idée. Enfin, lorsqu'elle passa tout près de moi en s'en allant, encore que son air de dépit fût bien contraire à la figure douce et tranquille dont j'avais gardé souvenance, j'observai le signe noir qu'elle avait au coin de la bouche et m'assurai par là que c'était bien la fille des bois que j'avais portée à mon cou et qui m'avait embrassée d'aussi bon cœur en ce temps-là qu'elle paraissait mal disposée maintenant à me recevoir. Je demeurai longtemps dans les réflexions qui me venaient sur une pareille rencontre, mais enfin la musette du grand bûcheux, qui sonnait une manière de fanfare, me fit observer que le soleil était tout justement couché. Je n'eus point de peine à retrouver le chemin des loges, car c'est comme cela qu'on appelle les cabioles des ouvriers forestiers. Celle des Huriel était la plus grande et la mieux construite, formant deux chambres, dont une pour Terence. Au-devant régnait une façon de hangar, tuile en vert balai, qui servait à l'abriter beaucoup du vent et de la pluie. Des planches de sillage, posées sur des souches, formaient une table dressée à l'occasion. Pour l'ordinaire, la famille Huriel ne vivait que de pain et de fromage, avec quelques viandes salées une fois le jour. Ce n'était point avarice ni misère, mais habitude de simplicité. Ces gens des bois trouvant inutile et ennuyeux notre besoin de manger chaud et d'employer les femmes à cuisiner depuis le matin jusqu'au soir. Cependant, comptant sur l'arrivée de la mère à Joseph ou sur celle du père Brûlé, Terence avait souhaité leur donner leurs aises et dès la veille s'était approvisionnée à meples. Elle venait d'allumer le feu sur la clairière et avait convié ses voisines à l'aider. C'étaient deux femmes de bûcheux, une vieille et une laide. Il n'y en avait pas plus dans la forêt, ces gens n'ayant ni la coutume ni le moyen de se faire suivre au bois de leur famille. Les loges voisines, au nombre de six, renfermaient une douzaine d'hommes, qui commençaient à se rassembler sur un tas de fagots pour souper en compagnie les uns des autres, de leurs pauvres morceaux de lard et de leur pain de seigle. Mais le grand bûcheux, allant à eux, devant que de rentrer chez lui poser ses outils et son tablier, leur dit avec son air de brave homme « Mes frères, j'ai aujourd'hui compagnie d'étrangers que je ne veux point faire pâtir de nos coutumes. Mais il ne sera pas dit qu'on mangera le rôti et boira le vin de Sancerre à la loge du grand bûcheux sans que tous ses amis y aient part. Venez, je veux vous mettre en bonne connaissance avec mes hôtes, et ceux de vous qui me refuseront me feront de la peine. » Personne ne refusa, et nous nous trouvâmes rassemblés une vingtaine. Je ne peux pas dire autour de la table, puisque ce monde-là ne tient point à ses aises, mais assis, qui sur une pierre, qui sur l'herbage, l'un couché de son long sur des copeaux, l'autre juché sur un arbre tordu, et tous plus ressemblants, sans comparaison du Saint-Baptême, un troupeau de sangliers qu'à une compagnie de chrétiens. Cependant, la belle Terence, allant et venant, ne paraissait pas encore vouloir nous donner attention, lorsque son père, qui l'avait appelée sans qu'elle eût fait mine d'entendre, l'accrocha au passage, et, l'amenant malgré elle, nous la présenta. « Pardonnez-lui, mes amis, nous dit-il, c'est une enfant sauvage, née et élevée au fond des bois. Elle a honte, mais elle en reviendra. Et je vous demande, Brulette, de l'encourager, car elle gagne à être connue. » Là-dessus, Brulette, qui n'était embarrassée ni mal disposée, ouvrit ses deux bras et les jeta au cou de Terence. laquelle, n'osant se défendre, mais ne sachant se livrer, resta ferme à la voir venir et releva seulement sa tête et son regard, jusqu'alors fichés en terre. En cette position, se voyant de près l'une l'autre, les yeux dans les yeux et quasi joue contre joue, elles me firent penser de deux jeunes taures, l'une desquelles avance le front pour folâtrer, tandis que l'autre, défiante et déjà malicieuse de son encornure, l'attend pour la heurter traîtreusement. Mais Thérence parut tout à coup gagnée par le regard doux de Brulette, et, retirant sa figure, elle la laissa tomber sur l'épaule de cette belle pour cacher des pleurs qui lui remplirent les yeux. « Ma foi !» dit le père Bastien en raillant et caressant sa fille. « Voilà ce qui s'appelle être farouche. Je n'aurais jamais cru que la honte des fillettes pût aller jusqu'aux larmes. Mais comprenez quelque chose aux enfants, si vous pouvez. Allons, Brulette, vous me paraissez plus raisonnable. Suivez-la, et ne la lâchez qu'elle ne vous ait parlé. Il n'y a que le premier mot qui coûte. » « À la bonne heure, dit Brulette, je l'aiderai. Et au premier mot de commandement qu'elle me voudra dire, je lui obéirai si bien qu'elle me pardonnera de lui avoir fait peur. » Et tandis qu'elles s'en allaient ensemble, le grand bûcheux me dit « Voyez un peu ce que c'est que les femmes. La moins coquette, et ma Thérence est de celle-là, ne se peut trouver en face d'une rivale en beauté sans être ou échauffée de dépit ou glacée de peur. Les plus belles étoiles font bon ménage côte à côte dans le ciel. Mais de deux filles de la mère Ève, il y en a toujours une au moins qui est gênée par la comparaison qu'on peut lui faire de l'autre. « Je pense, mon père, dit Huriel, que vous ne rendez point justice à Thérence pour le moment. Elle n'est ni honteuse ni envieuse. » Et il ajouta en baissant la voix, « Je crois que je sais ce qui la chagrine, mais le mieux sera de n'y pas faire attention. » On apporta de la viande grillée, des champignons jaunes très beaux, dont je ne pus me décider à goûter, encore que je vise tout ce monde en manger sans crainte. Des œufs fricassés avec diverses sortes d'herbes fortes, des galetons de blé noir et des fromages de Chambéra, renommés en tout le pays. Tous les assistants firent bombance, mais d'une manière bien différente de la nôtre. Au lieu de prendre leur temps et de ruminer chaque morceau, ils avalaient quatre à quatre comme gens affamés, ce qui chez nous n'eût point paru convenable, et ils n'attendirent point d'être repus pour chanter et danser au beau milieu du festin. Ces gens, d'un sang moins rassis que le nôtre, semblaient ne pouvoir tenir en place. Ils ne patientaient point le temps qu'on leur fit offre de quelques plats. Ils apportaient leur pain pour recevoir le fricot dessus, refusaient les assiettes et retournaient se percher ou se coucher. D'aucuns aussi mangeaient debout, d'autres en causant et gesticulant, chacun racontant son histoire ou disant sa chansonnette. C'était comme abeilles bourdonnant autour de la ruche. J'en étais étourdi et ne me sentais pas festiné. Malgré que le vin fût bon et que le grand bûcheux ne l'épargna point, personne n'en prit plus qu'il ne fallait. Chacun étant à sa tâche et ne voulant point se mettre à bas pour le travail du lendemain. Aussi la fête dura peu. Et bien qu'au milieu elle parut vouloir être folle, elle finit de bonne heure et tranquillement. Le bûcheux reçut grand compliment pour ses honnêtetés, et l'on voyait bien qu'il avait commandement naturel sur toute la bande, non seulement par son moyen, mais aussi par son bon cœur et sa bonne tête. On nous fit beaucoup d'avances d'amitié et d'offres de service, et je dois reconnaître que ces gens étaient plus ouverts et plus prévenants que ceux de chez nous. J'observai qu'Huriel les amenait, l'un après l'autre, auprès de Brulette, les lui présentant par leur nom et leur enjoignant de la regarder ni plus ni moins que comme sa sœur, d'où elle reçut tant de révérences et de politesse qu'elle n'avait jamais été si bien fêtée dans notre village. Quand l'heure de dormir fut venue, le grand bûcheux m'offrit de partager sa chambre. José avait sa loge voisine de la nôtre, mais elle était plus petite et nous aurions pu y être gênés. Je suivis donc mon hôte, d'autant plus volontiers que j'étais en chargée de veiller de près sur Brulette. Mais je vis, en entrant dans la loge, qu'elle ne courait aucun risque, car elle devait partager la couche de la belle Thérence. Et le muletier, fidèle à ses habitudes, s'était déjà couché dehors en travers de la porte, si bien que ni loup ni voleur n'en eût pu approcher. En jetant un coup d'œil sur la chambrette où les deux filles se retiraient, je vis qu'il s'y trouvait un lit et quelques meubles très propres. Huriel, grâce à ses mulets, pouvait transporter facilement et sans dépense, d'un lieu à l'autre, le petit ménage de sa sœur. Mais celui de son père ne devait pas lui donner grand embarras, car il se composait d'un tas de fougères sèches avec une couverture. Encore le grand bûcheux trouvait-il que c'était de trop, et que, pour bien faire, il eût dû coucher à l'étoilé, comme son fils. J'étais assez là pour me passer de mon lit, et je dormis d'un bon somme jusqu'au jour. Je pensais que Brulette en avait fait autant, car je ne l'entendis remuer non plus qu'une petite pierre derrière la cloison de planches qui nous séparait. Quand je me levai, le bûcheux et son garçon étaient debout et se consultaient ensemble. « Nous parlions de toi, » me dit le père. « Et comme il faut que nous allions au travail, je désire que l'affaire dont nous causons soit décidée. » Brulette, à qui j'ai remontré que Joseph avait besoin de sa compagnie pour quelque temps, et qui m'a dit avoir la volonté de lui en donner le plus possible, s'est engagée pour la huitaine tout au moins. Mais elle n'a pu s'engager pour toi, et nous a prié de t'y décider. C'est ce que nous ferons, j'espère, en te disant que nous en serons contents, et que tu ne nous pèses point, et que nous te prions d'agir avec nous comme nous ferions avec toi, si besoin était. Cela dit, d'un air de vérité et d'amitié, me commandait de m'engager. Et de fait, ne pouvant abandonner Brulette chez des étrangers, encore qu'une huitaine me parut bien longue, j'étais obligée de me ranger à son vouloir et à l'intérêt de Joseph. « Je t'en remercie, mon bon Tiennet, » me dit Brulette, sortant de la chambre de Thérence, « et j'en remercie les braves gens qui nous font si bonne réception. Mais si je reste, c'est à la condition qu'on ne fera point ici de dépenses pour nous, et que nous serons libres tous les deux de vivre à nos frais comme nous l'entendrons. » « Il en sera ce que vous voudrez, » dit Huriel, « car si la crainte de nous être à charge doit vous faire partir plus vite, nous aimons mieux renoncer au plaisir de vous servir. Mais souvenez-vous seulement d'une chose, c'est que mon père gagne de l'argent, et moi aussi. » Et que nous ne connaissons pas de plus grand contentement tous les deux que d'obliger nos amis et de leur faire honneur. » Il me sembla qu'Huriel faisait en toute occasion sonner un peu ses écus, comme pour dire « Je suis un bon parti ». Cependant, il agit tout aussitôt comme un homme qui se met de côté, car il nous annonça qu'il allait nous quitter. Sur ce mot-là, Brulette eut un petit frisson que seul je vis, et qu'elle surmonta aussitôt pour lui demander, sans trop paraître s'en soucier, où il allait et pour combien de temps. « Je m'en vais travailler au bois de la Roche, » nous dit-il. « Je serai assez près de vous pour revenir vous voir si vous avez besoin de moi. Tiennet sait le chemin. Je vas de ce pas, d'abord, dans la lande de la Crose chercher mes bêtes et mes équipages, et en repassant, je vous dirai adieu. » Là-dessus, il partit. Et le grand bûcheux, enjoignant à sa fille d'avoir grand soin et grand égard pour nous, s'en alla de son côté à son ouvrage. Nous voilà donc restés, Brulette et moi, en compagnie de la belle Thérence, laquelle, tout en nous servant aussi activement que si elle eût été à nos gages, ne paraissait pas vouloir nous faire grande fête, et répondait par oui et par non à tout ce que nous inventions de lui dire. Si bien que cette indifférence rebuta Brulette, qui me dit, dans un moment où nous étions seuls, « Il me semble, Tiennet, que nous déplaisons beaucoup à cette fille. Elle m'a fait place dans son lit cette nuit comme une personne qui serait forcée d'y recevoir un hérisson. Elle s'est jetée dans la ruelle, le nez contre la cloison, et sauf qu'elle m'a demandé si je voulais plus ou moins de couverture, elle ne m'a pas voulu dire un mot. J'étais si lasse que j'aurais volontiers dormi tout de suite, et même, voyant qu'elle en faisait semblant pour se dispenser de me parler, j'ai fait semblant aussi. Mais de longtemps je n'ai pu fermer l'œil, car j'entendais qu'elle s'étouffait de pleurer. Si tu veux m'en croire, nous ne la gênerons pas plus longtemps. Nous chercherons quelque loge vacante dans une autre partie de la forêt, et s'il n'y en a pas, je m'arrangerai avec la vieille femme que j'ai vue hier par ici, pour qu'elle envoie son mari chez un voisin et partage son logis avec moi. Si ce n'est qu'un lit d'herbage, je m'en contenterai. C'est payer trop cher un matelas et un coussin que d'y être reçu avec des larmes. Quant à nos repas, je compte que dès aujourd'hui, tu iras à Mesples acheter ce qu'il nous faut, et je me charge de notre cuisine.
« C'est très bien, Brulette, lui répondis-je, et je ferai tout ce que vous voudrez. Cherchons un logement pour vous, et ne vous inquiétez pas de moi. Je ne suis pas plus de celle que ce muletier qui a dormi dehors sous le travers de votre porte. Ainsi ferai-je pour vous de bon cœur, sans craindre de fondre à la rosée. Cependant, écoutez-moi. Si nous quittons comme ça la loge et la table du grand bûcheux, il nous croira fâchés, et comme il nous a trop bien traités pour avoir à se reprocher quelque chose, il verra aisément que c'est sa fille qui nous rebute. Il l'en grondera peut-être, et voyons si la chose sera méritée. Vous dites que cette jeunesse a été très honnête, voire soumise envers vous. Or donc, si elle a quelque peine cachée, avons-nous le droit de blâmer sa tristesse et son silence? Ne vaudrait-il pas mieux ne faire semblant de rien? La laisser libre tout le jour d'aller voir ou de recevoir son galant si elle en a un? Et quant à nous, faire société avec José, pour qui seuls nous sommes venus ici. Ne craignez-vous point aussi qu'en nous voyant chercher tous deux un autre logement, on ne se fourre dans l'idée que nous avons quelque mauvais motif pour nous mettre à part? Tu as raison, Tiennet, me dit Brulette. Eh bien, je patienterai avec cette grande rechigneuse et la verrai venir. 13e veillée. La belle Thérence ayant tout préparé pour notre déjeuner, et voyant monter le soleil, demanda à Brulette si elle avait songé à réveiller Joseph. « C'est l'heure, lui dit-elle, et il est fâché quand je le laisse dormir trop tard, parce que la nuit d'après il a peine à se reprendre. « Si c'est vous qui avez coutume de l'appeler, ma mignonne, répondit Brulette, faites-le donc, je ne connais point son habitude. « Non, non, reprit Thérence d'un ton sec. C'est votre affaire de le soigner à présent, puisque vous êtes venu pour ça. Je peux à cette heure m'en reposer et vous en laisser la charge. »
Pauvre José, ne put s'empêcher de dire notre Brulette. Je vois qu'il est d'un grand embarras pour vous et qu'il ferait mieux de s'en revenir avec nous dans son pays. Thérence tourna le dos sans répondre et je dis à Brulette. « Allons tous deux l'appeler, je gage qu'il sera content d'entendre ta voix la première. » La loge de José touchait quasiment celle du grand bûcheux. Sitôt qu'il entendit la voix de Brulette, il vint tout courant regarder à travers la porte et lui dit « Ah, je craignais de rêver, Brulette, c'est donc bien vrai que tu es là. » Quand il fut assis sur les souches entre nous deux, il nous dit que pour la première fois depuis longtemps, il avait dormi tout d'une lampée, et cela était reconnaissable à son visage, qui valait déjà 10 sous de plus que celui de la veille. Thérence lui apporta dans une écuelle un bouillon de poule, et il voulait le donner à Brulette, qui s'en défendit d'autant mieux que les yeux noirs de la fille des bois semblaient remplis de colère, à cause de l'offre qui lui en était faite. Brulette, qui était trop fine pour vouloir donner prise à son dépit, refusa, disant qu'elle n'aimait point le bouillon et que ce serait grand dommage d'en avoir laissé le mal à l'infirmière pour n'en retirer ni le profit ni le plaisir. Et même elle ajouta avec douceur « Je vois, mon gars, que tu es soigné comme un gros bourgeois et que ces braves gens n'épargnent rien pour te réconforter le corps. » « Oui, dit José, prenant la main de Thérence et la joignant dans les siennes à celle de Brulette. J'ai causé de la dépense à mon maître. Il appelait toujours comme ça le grand bûcheux à cause qu'il lui enseignait à musiquer. Et de la fatigue à cette pauvre sœur que vous voyez là. Sache, Brulette, qu'après toi, j'ai trouvé un ange sur la terre. Comme tu m'as assisté l'esprit et consolé le cœur quand j'étais un enfant hébervigé et quasi propre à rien, elle a soigné mon pauvre corps en détresse quand je suis tombée ici en misère de fièvre. Les secours qu'elle m'a donnés, jamais je ne pourrai l'en remercier comme je le dois. Mais je peux dire une chose, c'est qu'il n'y en a pas une troisième comme vous deux, et qu'au jour des récompenses, le bon Dieu gardera au ciel ses deux plus belles couronnes pour Catherine Brûlé, la rose du Berry, et pour Thérence Huriel, la blanche épine des bois. » Il sembla que ce doux parler de Joseph mit du baume dans le sang de Thérence, car elle ne refusa plus de s'asseoir pour manger avec nous. Et Joseph était entre ces deux belles filles, tandis que moi, profitant du sans-gêne que j'avais vu dans la manière du pays, je me dérangeais tout en mangeant pour être tantôt près de l'une et tantôt près de l'autre. Je faisais de mon mieux pour contenter la fille des bois par mes prévenances, et je tenais à honneur de lui montrer que les berrichons ne sont pas des ours. Elle répondait très doucement à mes honnêtetés, mais il ne me fut point possible de la faire sourire, ni lever les yeux sur moi en me répondant. Elle me paraissait avoir l'humeur bizarre, prompte au dépit et remplie de défiance. Et cependant, quand elle était tranquille, elle avait quelque chose de si bon dans l'air et dans la voix qu'on ne pouvait prendre d'elle une mauvaise idée. Mais, ni dans ses bons moments, ni dans les autres, je n'osais lui demander si elle se ressouvenait que je l'eusse portée en mes bras et qu'elle m'en eût payé d'une accolade. Je m'étais bien assurée que c'était elle, car son père, à qui j'en avais déjà parlé, n'avait point oublié la chose et prétendait avoir comme reconnu ma figure sans savoir pourquoi. Tout en déjeunant, Brulette, comme elle m'en fit part ensuite, commençait à avoir une autre doutance de la vérité. C'est pourquoi elle se mit en tête d'observer et de feindre pour en savoir plus long. « Or ça, dit-elle, vais-je rester tout ce jour les bras croisés? Sans être une grosse ouvrière, je n'ai pas coutume de dire mon chapelet d'un repas à l'autre. Et je vous prie, Thérence, de me montrer quelque ouvrage où je puisse vous aider. Si vous souhaitez courir, je garderai la loge et y ferai ce que vous me commanderez. Mais si vous restez, je resterai aussi, à condition que vous m'occuperez pour votre service. » « Je n'ai besoin d'aucune aide, répondit Thérence. Et vous, vous n'avez besoin d'aucun ouvrage pour vous désennuyer. » « Pourquoi donc cela, ma mignonne ? Parce que vous êtes avec votre amie, et comme je pourrais être de trop dans toutes les choses que vous avez à vous dire, je sortirai si vous souhaitez rester. Je resterai si vous souhaitez sortir. » Cela ne ferait ni le compte de José ni le mien, dit Brulette avec un peu de malice. Je n'ai point de secret à lui dire, et tout ce que nous avions à nous raconter, nous y avons donné la journée d'hier. À cette heure, le contentement que nous avons d'être ensemble ne peut que s'augmenter de votre compagnie, et nous vous la demandons, à moins que vous n'en ayez une meilleure à nous préférer. » Thérence resta indécise, et la manière dont elle regarda Joseph fit voir à Brulette que sa fierté souffrait de la crainte d'être importune. Sur quoi Brulette dit à Joseph « Aide-moi donc à la retenir. Est-ce que tu n'en seras pas content? Ne disais-tu pas tout à l'heure que nous étions tes deux anges gardiens? Et ne veux-tu pas qu'ils travaillent ensemble à ton salut ?»« Tu as raison, Brulette, dit Joseph. Entre vos deux bons cœurs, je dois guérir plus vite. Et si vous vous mettez deux à vouloir bien m'aimer, il me semble que chacune de vous m'en aimera davantage. Comme quand on se met à la tâche avec un bon compagnon, qui vous donne de sa force pour redoubler la vôtre. » « Est-ce donc moi, dit Thérence, qui serait le bon compagnon dont votre pays a besoin ? Allons, soit, je vais prendre mon ouvrage et je travaillerai ici. » Elle alla quérir du linge taillé en chemise et se mit à le coudre. Brulette voulut l'aider, et comme elle s'y refusait, « Alors, dit-elle à Joseph, donne-moi tes hardes à raccommoder, elles doivent avoir besoin de moi, car il y a longtemps que je ne m'en suis pas mêlée. » Thérence la laissa examiner le trousseau de Joseph, mais il ne s'y trouva pas un seul point à faire, ni seulement un bouton à coudre, tant on y avait bien veillé. Et Brulette parla d'acheter du linge à Mesples le lendemain pour lui faire des chemises neuves. Mais il se trouva que celle que Thérence cousait en ce moment était destinée à Joseph et qu'elle voulait les finir seule, comme elle les avait commencées. Les soupçons venant de plus en plus à Brulette, elle fit semblance d'insister là-dessus. Et Joseph même fut obligé d'y dire son mot, à savoir que Brulette s'ennuyait à ne rien faire. Alors Thérence jeta son ouvrage avec colère, disant à Brulette « Finissez-les donc toute seule, je ne m'en mêle plus. » Et elle s'en alla bouder en la maison. « José, dit alors Brulette, cette fille-là n'est ni capricieuse ni folle, comme je me le suis imaginé. Elle est amoureuse de toi. » José fut un si grand saisissement que Brulette vit bien qu'elle avait parlé trop vite. Elle ne s'imaginait point encore combien un homme malade dans son corps, par suite du mal de son esprit, est faible et craintif devant la réflexion. « Que me dis-tu là ? » s'écria-t-il. « Et quel nouveau malheur serait donc tombé sur moi ? Pourquoi serait-ce donc un malheur ? Tu me le demandes, Brulette ? Est-ce que tu crois qu'il dépendrait de moi de lui rendre ses sentiments ?»« Eh bien, dit Brulette, tâchant de l'apaiser, elle s'en guérirait. » « Je ne sais pas si on guérit de l'amour, » répondit Joseph. « Mais moi, si j'avais fait, par ignorance et par manque de précaution, le malheur de la fille au grand bûcheux, de la sœur d'Uriel, de la Vierge des bois, qui a tant prié pour moi et veillé à ma vie, je serais si coupable que je ne pourrais me le pardonner. » « L'idée ne t'est donc jamais venue que son amitié pouvait se changer en amour ?» « Non, Brulette, jamais. »« C'est singulier, José. »« Pourquoi ça ? N'étais-je point accoutumé dès mon enfance à être plaint pour ma bêtise et secouru dans ma faiblesse ? Est-ce que l'amitié que tu m'as toujours marquée, Brulette, m'a jamais rendu vaniteux au point de croire ?» Ici, Joseph devint rouge comme le feu et ne put dire un mot de plus. « Tu as raison. » lui répondit Brulette, qui était prudente et avisée, autant que Thérence était prompte et sensible. On peut beaucoup se tromper sur les sentiments qu'on donne ou qu'on reçoit. J'ai eu une folle idée sur cette fille, et puisque tu ne la partages point, c'est qu'elle n'est point fondée. Thérence doit être, comme je le suis encore, ignorante de ce qu'on appelle la vraie amour. En attendant que le bon Dieu lui commande de vivre pour celui qu'il lui aura choisi. « N'importe, dit Joseph, je veux et je dois quitter ce pays. « Nous sommes venus pour te ramener, lui dis-je, aussitôt que tu t'en sentiras la force. » Contre mon attente, il rejeta vivement cette idée. « Non, non, dit-il, je n'ai qu'une force, c'est ma volonté d'être grand musicien. Pour retirer ma mère avec moi et vivre honorée et recherchée dans mon pays. Si je quitte celui-ci, j'irai dans le Haut-Bourbonnais, jusqu'à ce que je sois reçu maître sonneur. » Nous n'osâmes point lui dire qu'il ne nous semblait pas devoir jouir jamais de bons poumons. Brulette lui parla d'autre chose, et moi, très occupée de la découverte qu'elle venait de me faire faire sur Thérence, portée, je ne sais pourquoi, à m'inquiéter d'elle, que je venais de voir sortir de sa loge et s'enfoncer dans le bois, je me mis à marcher du côté qu'elle avait pris, allant comme à l'aventure, mais curieux et même envieux de la rencontrer. je ne fus pas longtemps sans entendre des soupirs étouffés qui me firent connaître où elle s'était retirée. Ne me sentant plus honteux avec elle, du moment que je ne pouvais rien prétendre dans son chagrin, je m'approchai et lui parlai résolument. « Belle Thérence, lui dis-je, voyant qu'elle ne pleurait point et seulement tremblait et suffoquait comme d'une colère rentrée. « Je pense que nous sommes cause, ma cousine et moi, de l'ennui que vous avez. Nos figures vous choquent, et surtout celles de Brulette, car je n'estime pas la mienne mériter tant d'attention. Nous parlions de vous ce matin, et justement je l'ai empêchée de s'en aller de votre loge, où elle pensait bien vous être à charge. Or, parlez-moi franchement, et nous nous retirerons ailleurs. Car si vous avez mauvaise opinion de nous, nous n'en sommes pas moins bien intentionnés pour vous et craintifs de vous occasionner du déplaisir. » La fière Thérence parut comme outrée de ma franchise et, se levant de l'endroit où je m'étais assis auprès d'elle, « Votre cousine veut s'en aller ? » dit-elle d'un air de menace. « Elle veut me faire honte ? Non, elle ne le fera point. Ou bien... » « Ou bien quoi ? » lui dis-je, déterminée de la confesser. « Ou bien je quitterai les bois, et mon père, et ma famille, et je m'en irai mourir seule en quelque désert. » Elle parlait comme dans la fièvre, avec l'œil si sombre et la figure si pâle qu'elle me fit peur. « Thérence, lui dis-je en lui prenant très honnêtement la main et en la forçant à se rasseoir. Ou vous êtes née injuste, ou vous avez des raisons pour haïr Brulette. Eh bien, dites-les-moi, en bonne chrétienne, car il est possible que je la blanchisse du mal dont vous l'accusez. Non, vous ne la blanchirez pas, car je la connais, s'écria Thérence, qui ne se pouvait surmonter davantage. Ne vous imaginez pas que je ne sache rien d'elle. Je m'en suis assez tourmenté l'esprit. J'ai assez questionné Joseph et mon frère pour juger, à sa conduite, qu'elle est un cœur ingrat et un esprit trompeur. C'est une coquette, voilà ce qu'elle est, votre berrichonne, et toute personne franche a le droit de la détester. » Voilà un reproche bien dur, répondis-je sans me troubler. Sur quoi vous fondez-vous ? Et ne sait-elle point, s'écria Thérence, qu'il y a ici trois garçons qui l'aiment et dont elle se joue ? Joseph qui en meurt, mon frère qui s'en défend, et vous qui tâchez d'en guérir. Prétendez-vous me faire à croire qu'elle n'en sait rien et qu'elle a une préférence pour l'un des trois ? Non, elle n'en a pour personne. Elle ne plaint pas Joseph. Elle n'estime pas mon frère, elle ne vous aime pas. Vos tourments l'amusent. Et comme elle a en ce village une cinquantaine d'autres galants, elle prétend vivre pour tous et pour aucun. Eh bien, peu m'importe quant à vous, Tiennet, puisque je ne vous connais point. Mais quant à mon frère, qui est si souvent éloigné de nous par son état, et qui nous quitte dans un moment où il pourrait rester, et quant à Joseph, qui en est malade et quasi hébété, ah, tenez, votre Brulette est bien coupable envers tous deux et devrait rougir de ne pouvoir dire une bonne parole ni à l'un ni à l'autre. » En ce moment, Brulette, qui nous écoutait, se montra, et, mal habituée à être traitée de la sorte, mais contente cependant d'entendre expliquer la conduite d'Uriel, elle s'assit auprès de Thérence et lui prit la main d'un air sérieux, où il y avait de la compassion et du reproche en même temps. Thérence en fut un peu apaisée et lui dit d'une manière plus douce. « Pardonnez-moi, Brulette, si je vous ai fait de la peine, mais visiblement je ne me le reprocherai point si je vous amène à de meilleurs sentiments. Voyons, convenez que votre conduite a été fausse et votre cœur dur. Je ne sais pas si c'est la coutume en vos pays de se faire désirer avec l'intention de se refuser. Mais moi, pauvre fille sauvage, je trouve le mensonge criminel et ne comprends rien à ces manèges-là. Or donc, ouvrez les yeux sur le mal que vous faites. Je ne vous dirai pas que mon frère y succombera. C'est un homme trop fort et trop courageux. Il est aimé de trop de filles qui nous valent bien, pour ne pas en prendre son parti. Mais ayez pitié du pauvre José, Brulette. Vous ne le connaissez point, encore que vous ayez été élevée avec lui. Vous l'avez jugé imbécile, et c'est au contraire un grand esprit. Vous le croyez froid et indifférent, tandis qu'il est rongé d'une tristesse qui prouve le contraire. Mais son corps est trop faible et ne saura tenir contre le chagrin si vous l'abusez. Donnez-lui votre cœur comme il le mérite. C'est moi qui vous en prie et qui vous maudirai si vous le faites mourir.
Est-ce que vous pensez ce que vous me dites là, ma pauvre Thérence ? Répondit Brulette en la regardant à travers les yeux.
Si vous voulez savoir le fond de mon idée, je crois que vous aimez Joseph et que je vous donne, malgré moi, une forte jalousie qui vous porte à me chercher des torts. Eh bien, regardez-y mieux, mon enfant. Je ne veux point rendre ce garçon amoureux de moi. Je n'y ai jamais songé, et je regrette qu'il le soit. Je suis même toute portée à vous aider à l'enguérir. Et si j'avais su ce que vous me faites voir, je ne serais point venue ici, encore que votre frère m'eût dit la chose être nécessaire.
Brulette, dit Thérence, vous me croyez bien peu fière si vous jugez que j'aime Joseph comme vous l'entendez et que je descends jusqu'à la jalousie pour vos agréments. La manière dont je l'aime, je n'ai pas sujet de m'en cacher ni d'en avoir honte devant personne. S'il en était ainsi, j'aurais, à tout le moins, assez d'orgueil pour ne pas laisser croire que je vous le dispute. Mais mon amitié pour lui est si franche et si honnête que je me porterai courageusement à le défendre contre vos pièges. Ainsi, aimez-le franchement comme moi, et au lieu de vous en vouloir, je vous aimerai et vous estimerai. Je reconnaîtrai vos droits, qui sont plus anciens que les miens, et je vous aiderai à l'emmener dans son pays, à la condition qu'il y sera votre seul ami et votre mari. Autrement, attendez-vous à trouver en moi une ennemie qui vous donnera ouvertement condamnation. Il ne sera pas dit que j'aurais aimé cet enfant et soigné ce malade pour qu'une belle coquette de village le vienne tuer sous mes yeux.
C'est bien, dit Brulette qui avait repris toute sa fierté. Je vois de plus en plus que vous êtes amoureuse et jalouse, et j'en suis plus tranquille pour m'en aller et le laisser à vos soins. Que votre attache soit honnête et franche, je n'en doute pas. Je n'ai pas, comme vous, des raisons pour être colère et injuste. Pourtant, je m'étonne de ce que vous voulez me faire rester et me paraître ami. C'est là où finit votre sincérité, et je vous déclare que j'en veux savoir la raison, sans quoi je ne m'y prêterai point.
La raison ? Vous la dites vous-même, répondit Thérence.
Quand vous vous servez de vilains mots pour m'humilier, vous venez de prononcer que j'étais amoureuse et jalouse. Si c'est comme cela que vous expliquez la force et la bonté de mon sentiment pour Joseph, vous ne manquerez point de le lui faire croire aussi. Et ce jeune homme, qui me doit le respect et la reconnaissance, se croira le droit de me mépriser et de se moquer de moi en lui-même.
Vous avez raison, Thérence, dit Brulette, qui avait le cœur et l'esprit trop justes pour ne pas estimer la fierté de la fille des bois. Je dois vous aider à garder votre secret, et je le ferai. Je ne vous dis pas que je vous aiderai de tout mon pouvoir auprès de Joseph. Votre hauteur s'en offenserait, et je comprends que vous ne vouliez pas recevoir son amitié de moi comme une grâce. Mais je vous prie d'être juste, de réfléchir, et même de me donner un conseil, que, plus douce et plus humble que vous, je vous demande pour la gouverne de ma conscience.
Dites donc, je vous écoute, répondit Thérence, apaisée par la soumission et la raison de Brulette.
Sachez, avant tout, dit celle-ci, que je n'ai jamais eu d'amour pour Joseph, et si cela pouvait vous guérir, je vous en dirai la cause.
Dites-la, je la veux savoir, s'écria Thérence.
Eh bien, la cause, dit Brulette, c'est qu'il ne m'aime pas comme je voudrais être aimée. J'ai connu Joseph dès ses premiers ans. Il n'a jamais été aimable avant de venir ici, et il vivait si retiré en lui-même que je le jugeais égoïste. À présent, je veux croire qu'il ne l'était pas d'une mauvaise façon.
Mais d'après l'entretien que nous avons eu hier ensemble, je suis toujours assurée que j'aurai, en son cœur, une rivale dont je serai vilement écrasée. Et cette maîtresse qu'il préférera à sa propre femme, ne vous y trompez pas, Thérence, c'est la musique. »
J'ai quelquefois songé à ce que vous dites là, répondit Thérence après avoir réfléchi un peu, et en montrant bien, par son air soulagé, qu'elle aimait mieux avoir à se battre contre la musique dans le cœur de Joseph que contre l'aimable Brulette.
« Joseph, dit-elle, est très souvent dans l'état où j'ai vu quelquefois mon père, c'est-à-dire que le plaisir de musiquer est si grand pour eux que rien ne compte auprès de celui-là. Mais mon père n'en est pas moins si aimant et si aimable que je ne suis point jalouse de son plaisir.
« Eh bien, Thérence, dit Brulette, espérons qu'il rendra Joseph tout pareil à lui et par conséquent digne de vous. »
« De moi ? Pourquoi de moi plus que de vous ? Dieu m'est témoin que je ne m'occupe pas de moi quand je travaille et prie pour Joseph. Mon sort me tourmente bien peu, allez, Brulette. » Et je ne comprends guère qu'on se souvienne de soi-même dans l'amitié qu'on a pour une personne.
« Alors, dit Brulette, vous êtes comme une manière de sainte, ma chère Thérence, et je sens que je ne vous vaux point, car je me compte toujours pour quelque chose, et même pour beaucoup, quand je me permets de rêver le bonheur dans l'amour. Peut-être n'aimez-vous point Joseph comme je me l'imaginais, mais quoi qu'il en soit, je vous prie de me dire comment je dois me comporter avec lui. Je ne suis point du tout sûre qu'en lui ôtant l'espérance, je lui porterai le coup de la mort. Autrement, vous ne me verriez pas si tranquille. Mais il est malade, c'est bien vrai, et je lui dois du ménagement. Voilà où mon amitié pour lui est grande et sincère, et où je ne suis pas si coquette que vous pensez. Car s'il est vrai que j'ai 50 galants à mon village, où serait mon avantage et mon divertissement de venir relancer en ces bois le plus humble et le moins recherché de tous? Il me semblait, au contraire, que je méritais mieux de votre estime, puisqu'à l'occasion, je savais lâcher sans regret ma joyeuse compagnie, pour venir porter assistance à un pauvre camarade qui se réclamait de mon souvenir.
Thérence, comprenant enfin qu'elle avait tort, se jeta au cou de Brulette, sans lui demander aucunement excuse, mais en lui marquant par des caresses et par des larmes qu'elle s'en repentait franchement. Elles en étaient là, quand Huriel, suivi de ses mules, devancé par ses chiens et monté sur son petit cheval, parut au bout de l'allée où nous étions. Le muletier venait nous faire ses adieux, mais rien dans son air, ne marquait le chagrin d'un homme qui se veut guérir, par la fuite, d'un amour nuisible. Il paraissait, au contraire, dispos et content, et Brulette pensa que Thérence ne l'avait mis au rang de ses amoureux que pour donner une raison de plus, bonne ou mauvaise, à son premier dépit. Elle essaya même de lui faire dire le vrai motif de son départ, et, comme il prétendait avoir de l'ouvrage qui pressait, Thérence, de son côté, disant le contraire et s'efforçant à le retenir, Brulette, un peu piquée du courage qu'il marquait, lui fit reproche de s'ennuyer en la compagnie des Berrichons. Il se laissa plaisanter et ne voulut rien changer à son dessein, ce qui finit par offenser Brulette et la porta à lui dire « Puisque je ne vous verrai peut-être plus jamais, ne pensez-vous pas, maître Huriel, qu'il serait temps de me rendre un gage qui ne vous appartient pas et qui vous pend toujours à l'oreille ?»«
Oui, da, répondit-il, je crois qu'il m'appartient, comme mon oreille appartient à ma tête, puisque c'est ma sœur qui me l'a donné. » »«
Votre sœur n'a pu vous donner ce qui est à Joseph ou à moi. » »«
Ma sœur a fait sa première communion tout comme vous, Brulette, et quand j'ai rendu votre joyau à José, elle m'a donné le sien. Demandez-lui si ce n'est point la vérité. »
Thérence rougit beaucoup, et Huriel riait en sa barbe. Brulette crut comprendre que le plus trompé des trois était Joseph, qui portait comme une relique à son cou le petit cœur d'argent de Thérence, tandis que le muletier portait toujours celui qui lui avait été confié d'abord. Elle ne se voulut point prêter à cette fraude, et s'adressant à Thérence, « Ma mignonne, lui dit-elle, je crois que le gage que garde José lui portera bonheur, et m'est avis qu'il le doit conserver. Mais puisque celui-ci est à vous, je vous requiers le redemander à votre frère, afin de m'en faire un don, qui me sera très précieux venant de vous.
Je vous ferai n'importe quel autre don vous souhaiterez de moi, répondit Thérence, et ce sera de grand cœur. Mais celui-ci ne m'appartient plus. Ce qui est donné, et je ne pense pas qu'Huriel me le veuille restituer.
Je ferai, dit vivement Huriel, ce que Brulette voudra. Voyons, le commandez-vous ?
Oui, dit Brulette, qui ne pouvait plus reculer, encore qu'elle regretta son idée en voyant l'air fâché du muletier. Il ouvrit aussitôt son anneau d'oreille et en retira le gage qu'il remit à Brulette, disant
« Sois fait comme il vous plaît. Je serais consolé de perdre le gage de ma sœur si je pensais que vous ne le donnerez ni ne l'échangerez. »
« La preuve que je ne le ferai point, dit Brulette en l'attachant au collier de Thérence, c'est que je le lui donne en garde. Et quant à vous, dont voici l'oreille déchargée de ce poids, vous n'avez plus besoin d'aucun signe pour vous faire reconnaître quand vous reviendrez en mon pays.
« C'est bien honnête de votre part, répondit le muletier. Mais comme j'ai fait mon devoir envers Joseph, et que vous savez à présent ce que vous aviez besoin de savoir pour le rendre heureux, je n'ai plus à me mêler de ses affaires. Je pense que vous l'emmènerez et que je n'aurai plus jamais occasion de retourner en votre pays. Adieu donc, belle Brulette. Je vous augure tous les biens que vous méritez, et vous laisse en ma famille, qui mieux que moi vous servira ici et vous reconduira chez vous quand vous le souhaiterez. » Là-dessus, il s'en alla chantant. Un mulet, deux mulets, trois mulets sur la montagne, voyez-les. Au diable, c'est la bande. Mais il me parut que sa voix n'était point aussi assurée qu'elle s'efforçait de le paraître. Et Brulette, qui se sentait mal à l'aise, voulant échapper à l'attention de Thérence, revint avec elle et moi auprès de Joseph.